Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
La mort ou la fuite, les derniers chrétiens de Mossoul ont quitté la ville ce samedi, contraints et forcés par un ultimatum des djihadistes de l'État islamique. La capitale du christianisme en Irak se retrouve sans chrétiens. Nous aurons pour invité Mgr Youssef III Younan, le patriarche d'Antioche des Syriens. Ce dimanche s'ouvre une conférence internationale sur le sida, la première organisée en Océanie. Notre invité sera cette fois Mgr Roberto Vitillo, conseiller spécial de Caritas Internationalis sur le sida. Nous retrouverons Sœur Catherine Aubin et son Livre pour Dieu, rediffusion de son entretien avec Jean-Louis Delavessière, correspondant de l'AFP à Rome. Sans oublier bien sûr le Père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche, évangile selon saint Matthieu, un évangile qui nous propose trois paraboles sur le royaume des cieux. Des centaines de familles chrétiennes ont fui la ville irakienne de Mossoul après l'ultimatum des djihadistes de l'État islamique à l'origine d'une offensive fulgurante en Irak. Ce pays connaît sa crise la plus grave depuis des années, avec la prise depuis le 9 juin de pans entiers de son territoire par des insurgés sunnites sur fond de profondes divisions politiques. À Mossoul, tombé dès les premières heures de leur offensive aux mains des insurgés, des messages relayés via les haut-parleurs de plusieurs mosquées ont intimé vendredi aux chrétiens de quitter la ville d'ici ce samedi. Des centaines de chrétiens ont depuis pris la fuite en voiture ou en taxi et même à pied. Les familles chrétiennes se dirigent vers Douk et Erbil, dans la région autonome du Kurdistan irakien. Voilà ce qu'indiquait déjà hier le patriarche chaldéen Louis Sacco, déplorant que pour la première fois dans l'histoire de l'Irak, Mossoul se vide de ses chrétiens. Des djihadistes de l'État islamique qui ont même mis le feu à l'épiscopat syro-catholique de la ville. Mgr Ignace Youssef III Younan, le patriarche d'Antioche des Syriens, est actuellement à Rome. Il a rencontré ce samedi matin Mgr Mamberti, le secrétaire pour les rapports avec les États, qui lui a assuré que le pape suivait de très près cette situation en Irak. Le patriarche revient pour nous sur ces derniers événements qui ont secoué la ville de Mossoul.
Depuis 5 semaines sûrement, il n'y a plus de clergé, prêtres, religieux, religieuses à Mossoul. 99% de la communauté chrétienne a déjà fui cette ville. Elle a été menacée de mort, comme maintenant ils sont en train de le dire, ces organisations qu'on appelle Daesh, je ne sais quoi. Et ça, sous les yeux de la communauté internationale, qui utilise une politique machiavélique, et c'est vraiment triste. Il n'y a plus de prières dans nos églises, et ils nous ont menacé de détruire, de brûler ces églises, comme ils viennent de le faire ce matin avec notre siège d'archevêque à Mossoul. Ils l'ont tout anéanti par le feu, ils l'ont brûlé. Et ils se vantent devant toutes les nations qu'ils vont appliquer la loi de leur Allah. Ça, c'est vraiment triste parce que la communauté internationale continue à utiliser le langage politiquement correct, malheureusement, pour leurs intérêts économiques. Et voilà que cette communauté chrétienne de Mossoul, qui a vécu durant des siècles depuis la première communauté chrétienne, est menacée dans sa vie même. Et vraiment, on ne sait pas ce qu'on doit faire et à qui nous adresser afin que ces atrocités cessent.
Vous parlez beaucoup de la communauté internationale. Vous n'évoquez pas les autorités irakiennes. Pourquoi ?
Les autorités irakiennes sont impuissantes à l'heure actuelle et depuis des années parce qu'ils ont fomenté cette haine confessionnelle entre chiites et sunnites. Et voilà, c'est là le problème. Et ça, c'est pas avec, disons, l'encouragement de cette communauté internationale qui se dit défendeuse des droits de l'homme. Qu'est-ce que peut faire cette autorité irakienne à Bagdad? Kurdistan a fait de son mieux pour accueillir ses réfugiés. Et le gouvernement de Bagdad dit qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui se fait avec ces organisations djihadistes et terroristes. Mais malheureusement, cette majorité sunnite garde le silence devant ces actes criminels. Et disent que ça s'est fait par des bandes de criminels, mais vraiment, tacitement, c'est avec leur accord, malheureusement.
Comment envisagez-vous l'avenir, en tout cas dans les prochaines semaines et les prochains mois?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Comment est-ce qu'on peut envisager cet avenir? Malheureusement, tant que ces gens-là continuent à parler de du nom de leur Dieu pour massacrer, pour tuer, pour menacer les autres, surtout les minorités, les gens innocents, on ne voit pas vraiment de solution qui soit solution juste pour ces communautés, des minorités qui ont été persécutées et maintenant, sous les yeux de tous, sont menacées et leur survie est vraiment en question. Nous allons continuer à prier, nous allons continuer à espérer, mais Dieu nous demande de participer dans la justice, dans la charité, mais toujours le courage de défendre les marginalisés, les pauvres, les faibles, comme le pape François le dit. Mais cela ne suffit pas. Il faut que nous nous adressions à ceux qui ont la responsabilité sur la scène internationale pour en finir avec ces événements tragiques et ces atrocités commises envers toutes les minorités en Irak et en Syrie, surtout les chrétiennes.
Et à noter que les violences survenues ces 6 dernières semaines en Irak ont fait déjà des milliers de morts et conduit en tout cas quelques 600 000 personnes à quitter leur foyer. Un important bilan également en Syrie, plus de 270 personnes sont mortes lors de la prise d'un gisement de gaz par l'État islamique. La plupart d'entre elles ont été exécutées, elles ont d'abord été emprisonnées avant d'être tuées par balles. C'est ce que précise l'Observatoire syrien des droits de l'homme, pour qui il s'agit de la plus meurtrière opération commise par les djihadistes depuis qu'ils sont apparus en Syrie l'année dernière. Et puis un autre chiffre, 9 Palestiniens ont été tués ce samedi dans de nouvelles frappes aériennes israéliennes à travers la bande de Gaza, portant à plus de 330 le nombre de tués dans l'enclave palestinienne depuis le 8 juillet dernier. Une religieuse se trouvait elle aussi à bord de l'avion MH17 de la Malaysia Airlines qui se rendait d'Amsterdam à Kuala Lumpur, qui était abattu au-dessus de l'Ukraine, faisant le bilan tragique de 298 morts. Il s'agit de sœur Philomène Tiernan de la Société du Sacré-Cœur. Âgée de 77 ans, elle retournait en Australie après avoir passé une période en Europe au cours de laquelle elle avait participé à un cours de renouvellement spirituel en Irlande, à une retraite spirituelle également en France, à une rencontre en Angleterre et enfin à une réunion de famille. Ce dimanche s'ouvrira une conférence internationale sur le sida, la 20e de ce genre, mais la première organisée en Océanie. Pendant 5 jours, experts, médecins et volontaires se retrouveront à Melbourne. Selon Caritas, l'Église catholique fournirait 25% des soins dispensés dans le monde entier aux personnes atteintes du sida. Avant la conférence internationale, les organisations catholiques organisent une pré-réunion de 3 jours pour échanger les expériences et réfléchir sur la doctrine de l'Église dans la lutte contre le sida. Elle est intitulée « Pressons le pas en pensant à la parabole des pains et des poissons », en prenant la parabole de la multiplication des pains comme métaphore d'une lutte contre la maladie de plus en plus difficile au vu des conditions budgétaires restreintes. Monseigneur Roberto Vitillo, conseiller spécial de Caritas Internationalis sur le sida, et l'un des participants à cette préconférence catholique.
Nous avons une réponse au sida de toute la personne. Pas seulement de trouver les solutions de prévention faciles qui peut-être sont efficaces pour une petite période de temps, mais nous sommes intéressés d'accompagner la personne qui est vulnérable à l'infection de VIH ou qui déjà vit avec la situation du sida, de traiter les problèmes qui sont à la base de cette infection. Comme Église, nous n'avons pas beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens, mais nous avons l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres de trouver les moyens d'accompagner la personne qui vit avec le sida et aussi de trouver les moyens de développer les programmes de traitement et aussi de prévention, éducation pour la prévention de transmission de VIH-SIDA.
S'il fallait dresser un état des lieux aujourd'hui, en 2014, de la lutte contre le SIDA, sur quoi il faut mettre l'accent véritablement ?
Je crois que c'est très important de déterminer ces programmes de dépistage et aussi de traitement à niveau communautaire. Et dans beaucoup de pays en développement, c'est difficile de centraliser les programmes de SIDA dans les grandes villes. Normalement, les gouvernements établissent ce type de programmes dans les grandes villes, mais il faut arriver à petits villages et à niveau de communautés locales. Et ça, c'est, à mon avis, le rôle de l'Église, parce que nous sommes partout. Nous sommes dans les petits villages et les gens viennent chez l'Église pour résoudre leurs problèmes, soit médical, soit social, soit affectif.
Pour nos rediffusions de l'été, dans la rubrique « Livre pour Dieu » de Sœur Catherine Aubin, nous vous proposons de redécouvrir le livre de Jean-Louis de la Vessière, de Benoît François, « Une révolution tranquille », publié aux éditions Le Passeur. Jean-Louis de la Vessière, rappelons-le, est correspondant de l'agence France Presse au Vatican. Dans ce livre, il raconte et analyse les deux événements inédits qui ont marqué la vie de l'Église ces derniers mois, à savoir la renonciation de Benoît XVI et l'élection ensuite du premier pape jésuite et du premier pape américain de l'histoire, un pape qui a vite séduit les médias. Le journaliste s'interroge sur l'impact que ce tournant peut avoir sur l'Église. Il répond aux questions donc de Sœur Catherine Aubin.
Jean-Louis de la Vessière, le titre de votre dernier livre, de Benoît à François, une révolution tranquille. Est-ce que une des caractéristiques de votre livre est de nous montrer les perceptions différentes de Benoît XVI et du pape François ?
Effectivement, j'ai voulu décrire deux personnages réels, mais aussi les perceptions qu'on en a. Hélas, une perception très négative en France, en Occident, de la fin du pontificat de Benoît XVI, vu comme un pape réactionnaire, à l'écart du monde, ce qu'il n'était pas, et un enthousiasme débordant pour le pape François, dans lequel beaucoup d'Occidentaux ont tout de suite vu un pape progressiste, révolutionnaire, ce qu'il n'est sûrement pas non plus. Et donc j'ai voulu faire justice à ces deux personnes qui sont des personnes éminentes, qui ont d'ailleurs entre eux une continuité, montrer que les perceptions peuvent être un peu inexactes ou fausses ou marquées par les débats contemporains, par les scandales, mais que les personnes sont un peu différentes des perceptions.
Dans les points que vous avez fait émerger, il y a des caractéristiques, deux hommes fascinants mais différents.
J'ai été très touché par les catéchèses de Benoît XVI, par la limpidité de sa pensée, sa clarté, quelque chose comme un lac de montagne aux eaux transparentes par moments qui révèle Dieu. Et j'ai été, comme je le mets dans mon livre, très, très séduit aussi par la cascade, le torrent que constitue la parole accompagnée de gestes de François, très chaleureux, qui va vers les autres. Et je pense que beaucoup d'intuitions de Benoît ont été reprises par François sur la purification de l'Église, par exemple, la lutte contre la mondanité, la séparation entre sacré et profane, la miséricorde.
Dans le chapitre, dans la deuxième partie de votre livre consacré au pape François, vous insistez beaucoup sur le fait que le pape François met la miséricorde comme mot-clé de ses premiers mois de pontificat.
Oui, absolument. Je crois que la théologie de la miséricorde est au centre. C'est là où tout l'amour de Dieu est montré et manifesté. Et dans l'avion qui le ramenait du Brésil, le pape a dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une théologie du péché ? » Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Il a sans doute voulu dire que dans l'Église avait trop régné ce qu'il appelle le sacrement de la douane, un huitième sacrement qui aurait été créé faussement, qui juge les gens et les exclut trop facilement à partir de règles. Et il veut montrer que la miséricorde de Dieu est donnée toujours à tout le monde, tout le temps. Bien sûr, c'est un processus, l'homme doit la vouloir, mais donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple loi avec des interdits, des condamnations. Le pape François a décidé de d'ouvrir en quelque sorte les bras du Christ.
Qu'est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs découvrent à travers votre livre ?
J'aimerais qu'ils découvrent que derrière l'opacité et de temps en temps un aspect assez triste que peut avoir le Vatican, il y a des hommes passionnés de Dieu qui y travaillent. Benoît XVI était mal compris, mais c'était un homme passionné de Dieu, très délicat, d'un esprit très élevé, et François aussi. Il se trouve à la tête d'une institution absolument immense et très difficile à gérer. Bien sûr, ils peuvent faire des maladresses, ils peuvent faire des erreurs, mais ils sont absolument dédiés à leur tâche de montrer d'indiquer à l'homme qu'il y a une espérance extraordinaire.
Merci Jean-Louis de la Vessière.
Et retrouvons à présent le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche, 16e dimanche du temps ordinaire, évangile selon saint Matthieu 13, 24 à 43, « De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps ».
L'évangile de ce jour nous propose trois paraboles sur le royaume des cieux. Chacune d'entre elles nous permet de mieux comprendre ce grand mystère qui concerne la manière avec laquelle nous mettons en pratique l'enseignement de Jésus. Voyons cela plus en détail. Tout d'abord, Jésus compare le royaume des cieux à un homme qui sème du bon grain dans son champ. L'ennemi survient et sème de l'ivraie au milieu du blé. Les serviteurs du maître proposent d'enlever l'ivraie, mais le maître refuse car le bon grain pourrait être arraché en même temps. Cette comparaison reflète bien notre monde. Le bon grain et l'ivraie croissent côte à côte. C'est à chacun de nous de discerner ce qui est bon de ce qui est mal et de faire son choix. Toutefois, cette comparaison peut aussi se comprendre par rapport au cœur de l'homme. Nous pouvons parfois nous concentrer plus sur la conversion des autres que sur la nôtre. Nous prions pour que le Seigneur change notre prochain, qu'il enlève l'ivraie de son cœur. Mais le Seigneur ne répond pas toujours à cette prière. Il laisse l'ivraie croître avec le bon grain. C'est d'une part un appel qui nous est fait à aimer l'autre jusque dans sa faiblesse, ses limites. Cette réflexion nous appelle cependant à aller plus loin. Notre propre cœur renferme lui aussi de l'ivraie. Et le Seigneur la laisse côtoyer le bon grain. Lorsque l'ivraie dans le cœur de mon prochain m'exaspère, il est bon de nous rappeler cette parole de Jésus. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ?» Jésus compare ensuite le royaume des cieux à une graine de moutarde. Elle est la plus petite des semences, mais elle dépasse toutes les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Par cette comparaison, Jésus affirme que tous ont une place dans le royaume, même le plus petit d'entre nous. C'est justement en nous reconnaissant petits que nous pouvons laisser le Seigneur agir en nous et nous donner de porter du fruit. Enfin, le Seigneur compare le royaume des cieux à du levain qu'une femme enfouit dans trois grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Le levain est ce qui demeure caché, mais qui permet au pain de lever et d'être comestible. Jésus nous rappelle alors que c'est à ses yeux et non devant ceux des hommes que nous sommes appelés à agir. Notre Père qui voit dans le secret saura nous le rendre. Jésus conclut cette série de paraboles en montrant que tous ne sont pas capables de les comprendre. Certains ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Il est vrai que le royaume est un mystère. C'est une réalité que l'on ne peut définir que par image, mais que l'on peut toutefois expérimenter en y entrant, c'est-à-dire en mettant en pratique les paroles de Jésus. Prions aujourd'hui pour que notre cœur soit ouvert au mystère du royaume afin d'acquérir une couronne dans le ciel, une couronne qui ne se flétrit pas.
Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez consulter notre page internet www.radiovaticana.va et notre page Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain, où que vous soyez.